Vous écoutez Logosphère, l'émission de reportages et d'entretiens, de rencontres et de réflexions. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Logosphère sur les ondes d'univers. Raoul, bonjour.
Bonjour Mathieu Dubois.
Bonjour, vous êtes écrivain, auteur, vous vivez en Bretagne, vous avez publié de nombreux poèmes et des textes dans diverses revues de poésie, des revues telles que Décharge, N4728, Verso, Liqueur 44. Pour les connaisseurs, vous retrouverez donc toutes ces revues. Vous avez aussi écrit des livres, des ouvrages de poésie, en poésie, Sven, édité chez Gros Texte. Il y a aussi Else comme absenté aux éditions Henri. Vous avez pu éditer aussi Exsangue au Précaré, Les jours où Else, Else avec elle, Traverse, Kim m'apprivoise, Autoc et Most. C'est aussi un des livres que vous avez publié. Votre travail d'écriture oscille entre la prose narrative, la poésie, peut-être même le conte, vous allez m'en parler tout à l'heure. Et vous animez aussi un blog qui s'appelle Friche et Appenti, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça.
Alors, ma première question est très simple, en fait, c'était justement, ce serait pour commencer à discuter autour de votre travail d'écriture, de savoir tout simplement comment avez-vous commencé à écrire tous ces ouvrages dont je parlais à l'instant.
Alors, tout d'abord, dire que j'écris depuis longtemps, oui. C'est-à-dire depuis mon adolescence, en gros, et que j'ai attendu, par contre, de nombreuses années avant de publier quoi que ce soit. Je crois que le premier choc esthétique littéraire, il se passe à l'école, comme pour beaucoup d'ailleurs, par le biais d'un poème de Guillaume Apollinaire, le poème qui s'appelle « Saltimbanque ». Que je découvre quand j'ai 9 ans, et qui, ouais, c'est pour le coup vraiment un choc littéraire, et qui va en fait m'amener à porter vraiment attention aux mots, et à me faire du coup aimer les dictées, les exercices de grammaire et tout ça, parce que ce sont des endroits où je vais pouvoir trouver... des bribes de récits, en quelque sorte.
Mmh. Voilà. Qu'est-ce qui vous avait marqué dans ce poème « Saltimbanque » d'Apollinaire, particulièrement ?
C'est sûrement le rythme, en fait, de ce poème. Je ne l'ai pas là avec moi et je ne le connais pas par cœur, mais ça commence dans la plaine, les baladins s'éloignent au long des jardins. Mmh. Voilà. Et donc... Bon, voilà, il y a un rythme particulier et puis il y a un univers plutôt rural d'ailleurs pour le coup, puisque en gros ce sont des personnes, donc des baladins, qui marchent sur un chemin dans la campagne, voilà, avec quelque chose d'un peu, oui, avec ce que les baladins ou les cirques, etc., peuvent apporter dans une campagne, surtout à cette époque-là où il y a peu de choses autres qui arrive dans les bourgs, voilà.
Justement, alors, vous parlez de la campagne, mais qu'est-ce que vous travaillez? Qu'est-ce que vous allez chercher dans votre écriture, en termes esthétiques? Qu'est-ce qui vous anime dans l'écriture? Alors, ce sont trois questions différentes.
Oui. Alors, déjà, l'important pour moi... c'est peut-être pas forcément ce qui est raconté, mais c'est la façon dont ça l'est. Et donc ça, c'est vrai aussi pour des films ou pour tous les objets auxquels je m'intéresse, en fait. C'est la façon dont ça va être reporté. Voilà, et puis après, moi, plus précisément, là, je me rends compte au fur et à mesure que je publie, surtout avec le temps, je me rends compte davantage de ce que je cherche à creuser, en fait, au travers de mon écriture. Et maintenant, je suis donc en mesure de dire, il me semble, que je creuse les questions d'identité, c'est-à-dire les différentes facettes qui constituent un être humain, et puis la partie d'altérité qu'on a chacun en nous. Voilà.
D'accord. Alors, justement, pour ces différentes facettes-là dont vous parlez, quels sont les dispositifs d'écriture ? Alors, c'est un terme un peu... mais quels sont, parce que vous empruntez différents types d'écriture, vous empruntez donc la poésie contemporaine, on pourrait dire, enfin la poésie quoi, la prose narrative, on peut aussi retrouver du conte parfois, et en fait, et qui constitue en fait vos livres pour une part.
Alors depuis le début en fait, enfin le premier texte publié, si on prend le tout début, c'est Roche-Jagu-Roche-Hugu, celui-ci, là, que, enfin, je vous le montre, qui est paru chez Encre Vivre en 2010. Et donc ça, c'est vraiment autour d'un lieu qui existe dans les Côtes d'Armor. C'est un ensemble pour lequel je suis allée à la rencontre des personnes qui avaient un lien avec ce lieu-là. Et puis aussi, je ai rendu compte de mon propre rapport à ce lieu à travers sept poèmes qui y sont présents. Et dans ces poèmes-là et aussi dans d'autres extraits, ici, le breton va être présent par bribes surtout, puisque en l'occurrence, ça se passe donc dans un lieu où... Enfin, autour duquel les personnes parlent français, mais aussi breton. Et que c'est aussi mon cas, en fait, puisque je suis née dans les Côtes d'Armor, plus du côté du Finistère, et que je suis née dans un milieu où les deux langues étaient présentes. Et très vite, en fait, je vais porter attention. Évidemment, je grandis plutôt en français et à l'école, etc. Mais,
dans le quotidien, vous le parliez ou...
Je le parlais par bribes, mais je le comprenais surtout. D'accord. Et ensuite, vers 14 ans, où je vais l'étudier, en fait. Je vais le prendre en tant qu'option au lycée. Et par la suite, je vais aussi continuer à l'étudier, en tout cas un petit peu, à l'université de Rennes 2. Voilà. Et bon, voilà. Et le second recueil qui paraît, c'est Sven, où là, effectivement, tout le dispositif en quelque sorte se met en place, puisque je vais dans Sven avoir recours à un personnage qui s'appelle Else, c'est une femme, et que cette femme, elle va, ce personnage-là va être présent ensuite dans les textes qui suivent, et est encore présent à ce jour d'une façon un peu décalée, mais
un
voilà.
Un peu décalée, mais elle est toujours là.
Ouais.
Else, donc rappelons-le, qui veut dire l'autre aussi
voilà, en anglais.
Ouais. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un avatar ou voilà un personnage dans lequel vous pouvez aussi vous projeter, évidemment, j'imagine.
Oui, et dans lequel on peut retrouver, on peut me retrouver aussi, mais retrouver aussi. Des éléments qui proviennent d'autres personnes. En fait, il est construit à partir d'observations aussi que je fais dans des vécus à côté de moi. Ou voilà, c'est pas un personnage qui colle à moi, mais il a à voir avec moi aussi. Oui.
Alors justement, on parlait de la Bretagne et du breton. Est-ce que vous pourriez nous développer, parce que lorsque on lit vos différents ouvrages, notamment ceux avec Else, les jours avec Else, c'est ça ?
Les jours où Else,
les jours où Else, voilà, pardon. Else avec elle, ou encore, enfin oui, en tout cas, ces deux livres-là, on retrouve aussi vraiment la vie de campagne. Dont vous êtes originaire, de la Bretagne. On perçoit vraiment cet environnement-là, paysan de la campagne. C'était dans une ferme que vous avez grandi ?
Non.
Mais en tout cas, ça l'est très présent, très fourni en faune, en flore aussi. C'est tout ce qu'on retrouve, c'est ça, l'univers aussi.
Oui, de toute façon, il y avait ce rapport-là très proche à la terre, en fait. Oui, ça, c'est sûr. Et puis après, pour ce qui concerne donc les jours ou else, où effectivement, on va trouver notamment une réadaptation d'un conte traditionnel breton, et puis aussi la réadaptation d'un chant traditionnel breton, et la réadaptation d'un conte, mais pour le coup, celui-ci vient d'Islande, mais dans lequel aussi j'ai en fait, que j'ai réadapté en y mettant des bribes de breton. Mmh. En fait, à cette époque où j'écris Les Jours ou Else, je travaille aussi en fait autour de tout un corpus de contes, et notamment donc tout un corpus qui a été collecté par François-Marie Luzel, un folkloriste du 19e. Et que je m'attache à, donc je travaille avec un musicien et je m'attache en fait à créer des spectacles où à la fois le breton et le français vont être présents. Qu'est-ce que je cherche à faire à ce moment-là ? Eh bien en fait je cherche en quelque sorte à m'approcher à nouveau de cette langue bretonne qui s'éloigne un petit peu par la force des choses. Dans ces moments-là, je n'ai pas envie qu'elle s'éloigne. Je la sens s'éloigner de moi et ça me peine en fait parce que c'est quelque chose qui me constitue. Et donc, je décide de m'en servir par ce biais-là. Mmh. Parce que je trouve intéressant de la faire à entendre, surtout, puisque là, en l'occurrence, c'est dans le cadre de spectacle vivant. Mmh. Et même si elle n'est pas comprise, c'est pour ça qu'il y a toujours la traduction en français à côté, mais je m'attache à la faire entendre dans la partie de musicalité qu'elle comporte, en fait. Et pour cela, je m'attache aussi à l'accent du breton que moi je connais et qui est le breton du Trégor. Mmh. Voilà.
Le breton du Trégor. Qui... Mmh.
Donc le Trégor se situant entre Guingamp et Morlaix, en gros. Quoi.
D'accord.
Ouais.
Alors, est-ce que vous pourriez nous parler aussi de... Comment dire, dans ces textes-là aussi, il y a une part très grande qui est lié aussi aux absents, ceux qui ne sont plus là, ceux qui ont disparu. Qu'est-ce que l'écriture, qu'est-ce que vous cherchez justement à travers l'écriture, où on voit bien que les absents sont parlent en même temps, ou du moins vous les faites revivre.
Mmh. Ben déjà, en tout cas, moi j'ai grandi dans cet univers-là où... les morts, même s'ils sont morts, ils sont pas tout à fait morts dans la mesure où ils sont toujours présents, les promenades, comme je dis dans un des textes là, que les allées au cimetière sont des promenades, et c'est vraiment vrai. Et je crois que à
d'ailleurs,
cette époque-là,
les jours où Wells
ouais.
Ouvre.
Oui, voilà, sur une scène de cimetière, en quelque sorte, quoi. Enfin, en tout cas, le personnage, elle est dans un cimetière. Et que c'est, oui, que c'est quelque chose de vraiment présent à l'époque, parce que je pense que ça a changé un peu maintenant. Voilà, et donc c'est aussi, sans réfléchir, c'est quelque chose qui se met en place dans mon écriture de cette manière-là, les morts sont, même s'ils sont morts, sont toujours là, et voilà, et c'est une manière de le dire et de les rendre présents. C'est aussi, peut-être à travers tout ça, c'est un travail de mémoire que je fais aussi, ou de, une tentative de garder proche des personnes décédées, une tentative aussi de faire des deuils.
D'accord. Alors, dans ces livres aussi, ceux avec Else en particulier, mais j'ai l'impression quand même que ça traverse même les autres, ceux avec Kim, justement.
Ouais, ouais.
Donc, Most et Otok. Mais dans ces livres, il y a aussi souvent le passage de la vie rurale à, comment dire, au mode de vie moderne. On les ressent vraiment. Mm-hmm. Alors, il y a une phrase qui revient assez, assez régulièrement, c'est dans un des textes, Else, avec elle, c'est « comme tout va vite ». Aujourd'hui, comme tout va vite. Mmh. Et vous parlez aussi du passage d'un mode de vie à un autre qui a remplacé. Enfin, moi, ça m'a marqué. Est-ce que c'était une volonté de votre part ou de fait, ça s'est écrit comme ça ?
Non, ça s'est écrit comme ça. Et puis après, c'est un constat que je fais. Et puis aussi que quelque chose qui...
Parce que, rappelons-le juste, souvent les textes avec Else aussi parlent des années 50. Enfin, on passe d'une vie rurale qui existait auparavant. Et voilà.
Oui, tout à fait. Ouais. Dans les jours où Else, en fait, il y a donc Else, mais il y a aussi sa généalogie en quelque sorte. Voilà, il y a des parents, il y a une évocation de sœurs, d'un frère. Voilà, il y a un petit monde qui se met en place et effectivement, il y a des parties qui vont se référer à la vie des parents de Else, en fait. Mmh. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans les années... dans les années 50
ou 60, 70. Enfin, voilà. C'est aussi tout ce passage-là.
Ouais.
Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Non. Est-ce que c'était conscient ou...
Oui, c'est dans les jours où Else, c'est conscient, oui. Et puis après, donc dans Else avec elle, voilà, on passe à autre chose qui est plus proche d'aujourd'hui, dans le temps. Et puis après, il y a effectivement tout ce rapport au temps qui passe vite, soi-disant, parce que ce sont des choses que, je ne sais pas si moi je les vis tellement, mais en tout cas qu'on me rapporte sans arrêt, de personnes qui sont débordées tout le temps par tout ce qu'elles font, parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a les SMS, parce qu'il y a ceci, cela, parce qu'il y a la vie professionnelle qui veut ça aussi, qui laisse peu de temps... voilà, et donc ça, oui, c'est un constat de la vie d'aujourd'hui. Alors, un extrait de Else avec elle, c'est un poème qui s'appelle En Amzeroton, le temps venant. Cette nuit, c'est tout près. Ce n'est pas le cheval roux qui tracte la caravane, lui qui sait. Que tu es là, qui de plus loin t'entend. Tu vois ses oreilles entre les branches, à Nera Nemetglau, et il ne fait que pluie. Que celui qui regarde le temps du lendemain dans le ciel se retourne, s'en retourne. Rue d'Anos, Glau Peavel Antronos, rouge à la nuit, pluie ou vent le lendemain. Mais celui qui regarde le temps du lendemain dans le ciel est plus loin, pas avec le cheval roux non plus. Que celui qui pose dans l'âtre la bûche très grosse qui ne doit pas entièrement se consumer, se retourne, s'en retourne. Celui qui garde le tison, car il réchauffe les âmes des défunts qui reviennent de temps en temps, qui reviennent sur les lieux de leur vie. Kef Nedelek, Pisco Nedelek, la bûche de Noël. Oui, pas un dessert, non, du tout. De bois la bûche, le tison froid, emballé dans du papier, dans du linge, le tison dans l'armoire, entre les piles de draps, toute une année.
Alors, merci. Merci pour cet extrait. Donc, des jours avec Else, c'est ça ?
Non, je me trompe, pardon. De Else avec elle.
Else avec elle, pardon. Autant pour moi. Donc, qui illustre un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure autour de cette vie qui est liée à la Bretagne, avec la langue bretonne. Alors, on a commencé à discuter aussi d'une nouvelle étape dans l'écriture. Avec des livres tels que Most ou Otok, où apparaît un nouveau personnage dont vous parliez tout à l'heure qui s'appelle Kim et qui nous emmène là vers de nouvelles contrées. des contrées qu'on pourrait dire. Alors, est-ce que vous pourriez justement nous parler de ces contrées nouvelles que vous explorez avec Kim ?
C'est des contrées qui se situent plus à l'est de l'Europe en tout cas. Et voilà, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un temps de résidence en Croatie en décembre 2013. Et alors en fait, en gros, les pays de l'Est, c'est quelque chose dont je rêvais depuis mon enfance et sans avoir jamais pu concrétiser ce rêve. Et puis voilà que donc j'y suis allée, mais par le biais de mon travail d'écriture. Et je me suis retrouvée là-bas et j'ai donc écrit. Un texte qui est paru cette année seulement aux éditions Isabelle Sauvage à nouveau. Et c'est un texte qui s'appelle donc Otok. Mmh. Otok, ça veut dire île en croate. Et ce texte rend compte un peu de la façon dont j'appréhende cette ville à ce moment-là. Je ne connais rien de cette ville quand j'y arrive, en fait.
Et quelle ville ?
La ville de Split.
D'accord.
Sur la côte adriatique. Et je ne connais pas non plus la langue, en fait. Donc, la langue avec laquelle je vais m'exprimer là-bas, c'est l'anglais, parce que le français, autant dire que ce n'est pas utilisé. Et puis, et voilà, je vais être confrontée à cet univers, à cette ambiance. Ça dure quand même 5 semaines en plein hiver.
D'accord. Mais qui n'est pas du tout, alors là, pour le coup, on le ressent dans l'écriture, qui n'est pas du tout celui de la Bretagne.
Non.
qui est vraiment méditerranéen, pour le coup.
Oui.
Et qu'on retrouve, vous décrivez beaucoup les arbres, vous décrivez tout cet environnement, les plats que vous mangez, est-ce que justement c'était ça aussi l'idée ?
Oui, en fait, tout est là et il s'agit de me rapprocher, d'essayer de comprendre ce qui se passe autour de moi, en fait, voilà. Et l'impression que je vais avoir lors de ce mois-là, c'est vraiment, puisque je ne comprends pas la langue, et que néanmoins elle est très belle, c'est d'être entourée d'un chant. Et donc très, très vite, cette chose-là va se mettre en place dans les premiers jours d'un chant chanté quand on chante. Je vais avoir cette impression et du coup, un mode va se mettre en place immédiatement à partir du moment où je commence à prendre des notes et parce que je ne sais pas si ce que j'interprète est réel ou si voilà ou si c'est juste par mon filtre que je vois les choses et que ce n'est pas forcément la réalité. Donc il y a en fait le temps du conditionnel qui va se mettre en place et qui va ensuite imprégner en fait tout le texte.
Alors c'est ça, dans ces deux livres-là que moi j'ai pu lire, c'est-à-dire Most et Otok, vous empruntez avec ce nouveau personnage-là qui apparaît, Kim, vous empruntez ce conditionnel. Pourquoi ?
Pour les raisons que je viens de dire, là, que je ne suis pas sûre d'interpréter d'une façon réelle ce que je vois, voilà, il y a ça. Et puis après, ça se met en place comme ça, comme un filtre en fait, puisque je ne perçois pas tout. C'est un genre de filtre que je vais poser.
D'accord. Vous pourriez nous en lire un extrait, au pied levé, quelques extraits d'Otok qui a été écrit en Croatie avec des personnages qu'on retrouve aussi qui s'appellent qui s'appellent tout le temps Mladen et Ti.
Et Théa.
Théa, ouais. Théa, d'accord.
Otok. Kim ne serait pas seule puisqu'elle serait avec Els. Alors elles seraient toutes les deux. Même si Else, dormant, endormie dans des draps blancs où elle aurait bien le temps, de l'autre côté du ciel. Tandis que, sous un pont, allongé pour la nuit, un homme s'arrêterait 2 pieds du jour à hauteur du jardinet, à hauteur de la cour, comme ce serait tout près de la porte d'or, à hauteur en hauteur, étendue sécherait du linge entre deux façades, murs troués de fenêtres, à cette heure ouverte. Juste ici, arbustes et plantes ne prendraient pas d'ampleur, en rangée, bien accrochée, des serviettes de toilette vertes dans l'air. Et le vent pourrait souffler, qui viendrait de la montagne, il aurait un nom, Labora. Seraient des pas suspendus, tout comme Kim scrutant les visages, peut-être les yeux, comme elle sentirait ceux qui à peine l'effleureraient et ceux qui la regarderaient, comme ses lèvres vers un fruit, loin des silhouettes convenues convenir, être venues de loin.
Merci pour cet extrait, donc, Lou Raoul. Cet extrait d'Otok, qui était écrit donc en Croatie. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce temps-là de résidence que vous avez quand même cherché à développer dans le livre? Est-ce que vous pourriez nous en parler?
Dans ce temps de résidence en Croatie?
Oui.
Alors en fait, de la Croatie, moi, ce dont je me souvenais surtout, c'était de la guerre de Yougoslavie, en fait. Mmh. Et donc, et pour moi, cette guerre, elle était proche encore dans le temps. Et donc là-bas, je vais essayer de trouver des traces de cette guerre. C'est ça que je vais faire là-bas, mmh. en fait. Que je vais trouver forcément, même si au premier regard, elles ne sont pas forcément visibles, en tout cas pas dans la ville de Split. Mais dès qu'après, puisque par la suite, j'ai rencontré des personnes, des Croates, et effectivement, dans la vie de toutes ces personnes-là, surtout celles qui ont dans les 45, 50 ans, etc., c'est des événements qui sont arrivés dans leur jeunesse. Mmh. Et du coup, des événements qui les ont marqués pour la vie. Mais, mmh. Ouais.
Et qui aussi dans ce livre, ces traces-là, ces souvenirs-là tragiques, il y a la vie qui reprend.
Et oui, oui, aussi, tout à fait.
Et ouais. On voit aussi les nouveaux modes de vie aussi dont on parlait tout à l'heure qui apparaissent aussi.
Ben oui, tout à fait, parce que là-bas, c'est comme ici, voilà, et les jeunes, etc., marchent dans la rue avec des portables, ils sont identiques à nous. Et il y a donc tous ces niveaux-là qui se mélangent, et sachant que, bon, après, l'économie là-bas, elle est encore plus moribonde qu'ici, et qu'il y a tout un mélange avec la mort de Tito, la chute de la Yougoslavie, le démantèlement, tout ça est mélangé et se combine avec les évolutions d'aujourd'hui, en fait. Mmh. Ouais.
Et aussi la vie quotidienne qu'on retrouve à travers, justement, moi, ce qui m'a marqué, c'est le soleil et aussi le fait de les repas que vous preniez aussi, entre autres, on peut les retrouver, les arbres qu'on retrouve aussi par ailleurs.
Oui, les repas, notamment, c'est dans Most où il y a des recettes, une recette une recette qui est faite au moment de Noël, en fait, avec de la morue. Un poisson.
Alors, pour avancer et terminer cette émission, je voudrais vous poser cette question de savoir quels sont tout simplement les projets à venir, parce que vous nous parliez, donc vous faites des résidences pour écrire vos ouvrages. Quels sont les différents projets que vous menez, qui sont en perspective?
Alors, en termes de projet d'écriture, j'ai au moins... j'ai deux gros chantiers... en cours là, un chantier donc qui concerne tout un pan par rapport justement à la Croatie et à d'autres pays de l'Est, et puis un autre chantier où il s'agirait peut-être d'un portrait ou d'un tissage autour de ce personnage d'Else, de ces personnages d'Else, de Kim, sachant que quand Kim passe, par exemple, à Zagreb, ou enfin, en Croatie notamment, elle change encore de prénom, mais c'est quand même toujours la même. Là, elle s'appelle, après, elle s'appelle Beris. Donc voilà, il s'agit de...
Oui, qu'on voit apparaître
dans Most.
Voilà. Eh bien, Lou Raoul, merci.
Merci, Mathieu.